France Inter.
Plutôt qu'interpréter doctement les voies de la pensée, il serait plus profitable de porter l'oreille plus concrètement vers les phénomènes sonores qu'elles émettent. Ce sont alors moins les grands airs majestueux que des bruits, menus ou incohérents, qui prennent le dessus. Des souffles, des cris, des murmures, des grognements, ça racle, ça bégaye parfois, et soudain la cadence régulière du sens cède le pas à des syncopes inattendues et révélatrice d'autres significations. Tout ceci conduit à une nouvelle écoute. François Noudelman est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouvel essai philosophique intitulé « Penser avec les oreilles ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et avec, je vous laisse deviner, vous les connaissez.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
Ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi. Comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbons et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Paroles, paroles, paroles.
Que tu es belle.
Paroles, paroles, paroles.
tu es belle.
Parole, 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 encore des paroles que tu sais non.
Pense-t-on avec des mots ou la pensée nécessite-t-elle le silence selon vous, François Nudelman?
Bonsoir Laura Lerre. En fait, la mythologie de la pensée nous amène à croire que pour penser, il faut être silencieux, la méditation. Et ça, c'est une...
En robe de chambre.
En robe de chambre, oui. Surtout à l'écart des bruits du monde. Et je crois que ça, c'est une illusion. Parce que même lorsque... il n'y a pas de bruit. En fait, on porte en nous des tas de sonorités. Nous sommes des êtres sonores. Nous conservons dans nos oreilles toutes les ondes que nous avons reçues depuis toujours, depuis une heure. Et donc, jamais ça ne cesse. Le silence, de toute façon, en plus, à la radio, on sait très bien que le silence, ça n'existe pas. Le silence, c'est une pause. Et puis, il y a des qualités de silence. Il faudrait ensuite, de manière acoustique, dire que voilà, le silence, ça n'existe pas. Mais la philosophie a besoin souvent de grands mots, comme ça on dit la pensée, le silence. Et bon, il faut peut-être décrire plutôt que d'afficher un grand concept.
Écouter un philosophe s'exprimer le long de ses séminaires ou dans ses ateliers de philosophie qu'il fait dans les universités ou au Collège de France, vous a-t-il permis personnellement dans votre parcours, vous qui avez été président du Collège international de philosophie et qui vous préparez à partir pour New York, avoir des responsabilités intellectuelles françaises, vous a-t-il appris autre chose que la lecture silencieuse avec les textes?
Bien sûr, parce que ça suppose évidemment une forte incarnation. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que, étant depuis l'enregistrement des cours, des séminaires...
Et à la radio, ce depuis longtemps, parce qu'il y a eu Radio Sorbonne avec des archives absolument magnifiques des plus grands philosophes.
Oui. Donc en fait, maintenant, il y a une nouvelle approche de certaines pensées, et des livres d'ailleurs qui sont écrits, des livres qui ont été écrits sur la voie de Lacan, de Deleuze, de Foucault, et qui permettent, une approche différente. Alors pourquoi? Parce que, en fait, lorsque la voix performe la pensée, la performe de manière plus ou moins spontanée.
Alors ça veut dire quoi, performe?
Performer, c'est-à-dire que comme un acteur, c'est-à-dire comme une actrice, lorsque tout d'un coup, voilà, il y a une émission, une réception, et des gens pour écouter, tout d'un coup, la voix, elle fait entendre des choses qui ne sont pas réductibles au sens. Bon, il y a plusieurs sens. Il y a le sens qu'on peut lire, le sens premier, et puis il y a des sens implicites, des sens audibles. Et ça, en écoutant des philosophes, on peut percevoir des choses intéressantes. De ce point de vue-là, je crois que c'est quelquefois instructif, d'avoir un peu la position de l'analyste. C'est-à-dire, quelquefois, il faut laisser son attention un peu flotter. Ça nous arrive quand même souvent, parce que quand on a un séminaire, même s'il est très intéressant, ce qui dure 2 heures, 3 heures, ou plus, puis il y a certains orateurs, comme Derrida par exemple, pouvait parler très très longtemps, tout d'un coup, voilà, on a une sorte d'abstention, et en fait, ça continue à s'imprimer en nous. Et peut-être qu'on perçoit aussi des choses qui émergent de la parole, et qui nous laisse entendre quelque chose de la construction psychique des idées. Parce qu'en fait, si vous voulez, on peut en rester à l'explication au premier degré des idées. Un tel penseur dit ceci, dit cela, voilà, bon, c'est la vérité. Et puis, on peut s'intéresser aussi à la fabrique des idées, c'est-à-dire à entendre, au fond, ce qui fait l'investissement d'un penseur dans un concept, pourquoi il y tient absolument à nous montrer ceci ou cela, pourquoi il revient, pourquoi il ressasse, pourquoi toujours la même conjonction ou la même préposition qui lui permet de vraiment de renforcer son discours. Et là, tout d'un coup, on entend quelque chose de différent. Et alors là, il faut laisser, évidemment, la piste, au sens aussi, la piste radio, un peu ouverte pour déchiffrer quelque chose qui n'est pas simplement du premier degré.
Alors, les philosophes ont un corps, on le sait depuis l'aube de l'humanité. Ils font du bruit, les entendre parler, cela ne veut pas dire les entendre penser, mais cela veut peut-être dire accéder à une forme de compréhension que nous n'avons peut-être pas en lisant les mots couchés sur des pages. Oui. Quelque chose d'autre nous arrive. Cela voudrait-il dire que la philosophie est aussi une histoire d'affect, de sensations, d'émotions ?
Bien sûr, c'est vraiment ce que j'essaye aussi de faire valoir. C'est justement cette fabrication qui n'est pas simplement une fabrication conceptuelle. Hein. C'est Nietzsche qui rappelait effectivement que derrière les concepts, il y a des métaphores, la psychologie, et justement aussi peut-être un espace sonore, un monde sonore, et qu'il faut essayer de déchiffrer. D'ailleurs, je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais quand on a entendu un philosophe, quand on a la chance de l'avoir entendu, ensuite, on ne le lit plus tout à fait de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a non seulement le fait que, quand on entend, on se dit « tiens, je comprends différemment ce qu'il veut dire », mais aussi, après, quand on relit, ou quand on le lit, on entend quelque chose de sa voix. On ne le lit plus comme si c'était quelqu'un voilà, qu'on n'a jamais entendu. Et là, ça déroute un petit peu la lecture. Ça fait que la lecture est incarnée. Que donc, finalement, la sonorité d'une pensée, c'est pas simplement la sonorité de la voix d'un penseur qu'on a écouté, mais c'est aussi la sonorité qui est contenue dans les mots, dans les phrases, le rythme, et précisément qu'on perçoit encore mieux lorsqu'on a entendu déjà la voix de, je sais pas moi, d'Anna Arendt ou de Simone de Beauvoir ou d'autres penseurs, d'Heidegger. Bref, tout d'un coup, on accède effectivement à, alors bon, c'est une métaphore, mais on peut dire la chair de la pensée, ou en tout cas, la sonorité. Ça, je pense que c'est pas une métaphore. Il y a bien des sons, même si on les perçoit pas de manière acoustique. Il y a quand même des sons qui sont des sons virtuels et qui sont présents lorsqu'on lit un texte.
Alors, faire court, vous qui êtes professeur et enseignant depuis des décennies, cela veut dire se mettre en scène, même si on est modeste et oui. Si on veut transmettre oui. De la manière la plus pédagogique qui soit. Certains étaient des maîtres de cette théâtralisation de la pensée.
Oui.
Là, je fais référence explicitement à Jacques Lacan, qui faisait de ses séminaires de véritables apparitions avec une dramaturgie extrêmement cousue, suturée, etc. Est-ce que ces effets de voix, de rythme, nuisent à la pensée, nuisent à la profondeur de la pensée, ou est-ce qu'au contraire, cela entraîne les spectateurs et les auditeurs d'aujourd'hui, qui peuvent toujours, grâce à l'Institut National de l'Audiovisuel et à la radio, accéder plus pleinement à la fabrique de pensée oui. De, par exemple, Jacques Lacan.
Oui, tout à fait. Jacques Lacan utilise, par exemple, le silence. Hein. Claude Jéglé a écrit là-dessus. Mais il y a aussi les raclements. Hein. Sous ce que, d'ailleurs, on a tendance un petit peu à éviter, par exemple, quand on enregistre à la radio. Mais en fait, bon, le raclement, le bégaiement, ce qui va pas tout d'un coup.
L'asphyxie, voilà, l'asphyxie, de temps en temps.
Ça, c'est tout à fait passionnant. Bon, alors, est-ce que c'est intentionnel? Oui, le lapsus. Alors, comme vous dites, bon, c'est aussi, il y a une théâtralisation. Il y a aussi une intention ici de marquer l'auditeur, de l'impressionner.
Donc là, ça voudrait dire, en vous suivant, François Nudelman et cet essai magistral « Penser avec les oreilles » le démontre, que quelquefois, la pensée s'exprime peut-être plus profondément dans l'oralité que dans les traités théoriques publiés.
Alors, d'abord, il faut effectivement rappeler, vous avez raison de le souligner, que l'oralité, elle est à l'origine de la philosophie. Hein, Socrate propose une philosophie orale. Mais alors, simplement, je crois qu'on peut maintenant, aujourd'hui, passer à une notion d'oralité un peu différente, qui est développée comme concept, c'est oralité avec A-U. C'est d'ailleurs le fait qu'on dit, bon, maintenant on travaille là-dessus, sur orality. Bon, et ça veut dire au fond qu'il faut penser un texte à partir de l'écoute. Au fond, même si c'est écrit, il y a de l'oralité à U. Hein. C'est-à-dire que c'est oral, ça parle aux oreilles. Donc au fond, l'oralité O, elle doit être dépassée pour être pensée non pas simplement en opposition, en distinction avec l'écrit, mais aussi vraiment dans l'écrit même.
Vous intéressez à la chair de la pensée, c'est l'expression que vous venez d'utiliser tout à l'heure, François Nudelman, c'est exactement cela, c'est-à-dire que veut dire penser, que veut dire écouter la pensée, que veut dire penser la pensée et en faire une sorte d'usufruit pour ses propres désirs et ses propres appétits. Vous êtes donc intéressé précédemment au mensonge des philosophes et à ce que ça veut dire la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, je vous propose d'écouter un extrait d'un séminaire de Michel Foucault au Collège de France consacré à la vérité. Vous allez pouvoir entendre la tessiture de voix de Michel Foucault. Il est un des penseurs qu'on entend penser, je trouve, dans ces circonvolutions qu'il fait oralement. Mais après, on va s'intéresser aussi à la vérité de la vérité. Écoutez cet extrait. C'est une archive INA qui date du 28 mars 1984.
Attends, regarde la manière dont Épictète définit cette vie cynique et cette pratique cynique de la vérité. On voit que la pratique de la vérité prend chez lui différents aspects. Et que la fonction de véridiction, la fonction de manifestation de la vérité dans la vie cynique et par la vie cynique, bien cette manifestation emprunte différents chemins simultanés. Et qu'il y a plusieurs façons de dire la vérité en même temps dans la vie cynique. Premièrement, première voie, premier chemin, le rapport à la vérité, c'est un rapport immédiat, un rapport de conformité dans la conduite, de conformité même à la vérité dans le corps. Conformité de la conduite, c'est un thème très, très banal, très connu, on l'a déjà rencontré, il était, vous vous souvenez, essentiel dans la caisse où l'on voyait comment Socrate pouvait rencontrer la confiance de quelqu'un comme la caisse à cause même de la conformité, de l'harmonie, de l'homophonie entre ce qu'il disait et la manière dont il vivait. Eh bien, cette même homophonie, cette même conformité, on doit la retrouver dans le cynique, au paragraphe 98, Épictète explique que le cynique ne dira pas, n'est pas quelqu'un, par exemple, qui dira aux autres qu'il ne faut pas voler au moment même où il est en train de cacher sous son bras et dans son manteau un gâteau. Le cynique qui dit qu'il ne vaut pas voler ne vole pas. Bon, tout ceci est facile et simple. Il y a aussi cette idée qu'il y a un rapport, donc non seulement de conduite, mais de conformité de conduite, mais de conformité physique, de conformité en quelque sorte corporelle, entre le cynique et la vérité.
Alors, commentaire sur cette archive qui vous inspire beaucoup, beaucoup de réflexions, à la fois sur la vérité de la philosophie, la vérité de celui qui émet au moment même où il parle, c'est-à-dire Michel Foucault, de la vérité, il dit quelque chose qu'il ne dit pas vraiment parce qu'il cache quelque chose.
Oui.
Alors qu'il parle de la vérité.
Oui. Alors, j'essaie d'être le plus rapide possible. Foucault parlant de la vérité, c'est un peu surprenant parce que, évidemment, c'est pas un penseur platonicien. Même Deleuze s'est dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Mais en fait, ce qui l'intéresse, c'est la véridiction, c'est-à-dire le dire de la vérité. Qu'est-ce que c'est que dire la vérité? Donc, c'est bien le fait de s'adresser à un public et de dire la vérité. Et ce séminaire est très beau, c'est un séminaire magnifique qui a beaucoup impressionné tous ceux qui l'ont suivi et qui le lisent encore aujourd'hui, Le Courage de la Vérité, qui a été prononcé à Berkeley et ensuite au Collège de France. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a surpris plutôt, c'est moins le terme de vérité que le terme de courage. C'est un terme inhabituel, c'est un terme au fond de morale qui n'est pas dans le vocabulaire de Foucault. Alors, de quel courage s'agit-il? Là, on a un séminaire où Foucault s'assume comme philosophe et parle des philosophes antiques qui, eux, ont le courage de la vérité. Ce séminaire est très émouvant aussi parce que c'est le dernier de Foucault. Il le sait, plus ou moins, mais quand même. On sait aussi que, comme on l'a compris plus tard grâce aux témoignages de ceux qui n'ont pas forcément respecté l'omerta, comme Hervé Guibert, que en fait Foucault organisait le secret sur sa maladie, sur le sida. À un point quand même assez impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté, même post-mortem, d'imposer le silence sur cette maladie. Et donc c'est intéressant parce qu'on peut relire du coup, c'est une manière de lire, c'est pas la seule, mais enfin on peut relire ou réécouter, comme vous nous proposez, réécouter ce séminaire, mais en essayant de percevoir ce qui psychiquement se joue pour Foucault. Et là, dans le texte de Foucault dont on le relit, il y a énormément d'indices, qu'on pourrait même dire de simples, d'une tension très forte entre ce qu'il affirme et ce qu'il est en train de vivre.
Alors, grâce à vous, François Nudelman, on peut relire la philosophie, l'histoire de la philosophie autrement. Prenons un autre cas célèbre, Jean-Jacques. Oui. Jean-Jacques, il est resté dans l'histoire de la philosophie sous son prénom. Oui. Je veux bien sûr parler de Rousseau. Rousseau, qui est le maître incontesté, incontestable, encore aujourd'hui en 2019, de nouveaux principes de l'éducation. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses 5 enfants?
Alors voilà, l'histoire effectivement est assez emblématique, assez connue sur le fait que Rousseau, l'auteur de l'Émile, ce grand traité d'éducation, donc effectivement a abandonné ses 5 enfants. Alors, moi, ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est pas, il a écrit le traité d'éducation, bien que il ait abandonné ses enfants, mais grâce à l'abandon de ses enfants, il a pu écrire ce traité. Alors bon, c'est un peu paradoxal, mais justement, c'est le paradoxe qui peut permettre de créer d'aussi beaux traités. Et on peut relire l'Émile en voyant de très nombreuses allusions à une espèce de culpabilité, de volonté de s'affirmer comme éducateur, mais aussi comme père. Et donc cet abandon travaille complètement. Bon, la vie de Rousseau, ça on le sait très bien aussi dans de nombreux textes, mais particulièrement ce texte qui est bâti sur. Alors un mensonge, c'est un mot un peu lourd parce qu'on ne va pas accuser. Moi surtout, je n'ai surtout pas une position morale. Dans ce livre, j'ai dit mensonge. Je ne parle que des auteurs que j'aime, que j'admire. Et donc il s'agit pour moi plutôt de m'intéresser à la fécondité psychique d'une contradiction. C'est-à-dire comment on peut vivre une chose et dire le contraire. Et peut-être dire le contraire parce qu'on vit justement ça. Ça peut être étonnant. Parce qu'évidemment, nous, on se dit, bon, là, après tout, le philosophe, il dit ce qu'il pense. Mais un philosophe, bon, d'abord, il a plusieurs mois. C'est comme un romancier aussi. Il peut avoir plusieurs voix. Et donc, il faut admettre, au fond, qu'un philosophe ne corresponde pas strictement à ce qu'il affirme. Ce n'est pas forcément choquant.
L'un des philosophes sur lesquels vous avez le plus travaillé, le plus publié, que vous avez le plus écouté, c'est Jean-Paul Sartre. Je vous propose de l'écouter à propos du concept de parler de soi. C'est une archivina du 1er juillet 1975 au micro de Michel Contat.
Personnellement, j'estime d'abord que parler de soi n'est pas présomptueux, parce que n'importe qui devrait pouvoir parler de soi. Devant des scénographes ou des intervieweurs et dire le plus profond de soi. Selon moi, une erreur des rapports entre les gens, c'est que chacun conserve par rapport à l'autre quelque chose de caché, de secret. Pas nécessairement pour tous, mais pour celui-là à qui il parle en ce moment. Alors ça me paraît une erreur d'où peut-être on sortira un jour. Je pense que la transparence doit se substituer au secret. Par conséquent, je vois, et j'imagine assez bien, le jour où deux hommes n'auront plus aucun secret l'un pour l'autre, parce qu'ils n'en auront plus pour personne. Parce que la vie subjective, aussi bien que la vie objective, sera offerte, donnée. Je pense qu'il est impossible d'admettre que nous livrons notre corps comme nous le livrons et que nous cachions nos idées. Étant donné que pour moi, entre le corps et les idées, il n'y a pas de différence de nature.
Alors c'est un entretien absolument incroyable, il se dit des choses très profondes. Oui. L'auteur des mots nous dit que parler de soi n'est pas impudique. En même temps, l'auteur des mots, Jean-Paul Sartre, et vous le dites dans un de vos livres, François Nudelman, est celui qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a inventé ce concept qui a fait le tour du monde et qui est encore utilisé, ce concept d'engagement, alors que pendant sa propre vie, même s'il a voulu, au début de la Seconde Guerre mondiale, il a voulu embrasser la résistance, il n'a pas été un résistant. Et ses pièces de théâtre ont été données devant des parterres d'officiers allemands. Alors, qui est Jean-Paul Sartre?
Bon, je reviens sur le très bel entretien que vous faites entendre. La transparence, voilà. Et je crois qu'il y a effectivement cette volonté, cette illusion peut-être d'être complètement translucide devant l'autre. Comment peut-on y croire à cela? C'est une utopie, hein, et c'est peut-être pas forcément souhaitable. Heureusement qu'on peut garder sa part d'opacité, hein, ses secrets.
La transparence, le désir de transparence et la nécessité de transparence que nous assènent les actuelles démocraties, oui, sont-elles un gage justement de domination de l'être, oui, selon vous ?
Moi, je crois que c'est assez terrible l'idée de transparence. De toute façon, c'est une illusion. Donc, parce que déjà, pour parler de soi, d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas le plus grand menteur à l'égard de soi-même ? Bon, je cite au début un texte de La Rochefoucauld, mais voilà, comment peut-on prétendre dire la vérité alors qu'on se ment si souvent à soi-même ? On n'est jamais sûr de savoir si on ne ment pas, on se ment pas. Hein. Donc, alors, je reviens maintenant à la question que vous posez sur la contradiction chez Sartre, puisque j'étudie en fait différents types de contradictions. Et effectivement, c'est un débat un peu polémique, avec d'un côté ceux qui disent oui, bon, Sartre finalement le philosophe engagé, mais pendant l'occupation il n'a rien fait, et puis ceux qui disent mais non, pas du tout, ça a été un héros et on peut lire ses textes, ça se voit bien qu'il est résistant. Bon, moi je cherche pas à prendre parti de manière morale là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Sartre, effectivement, de manière extrêmement volontariste, change de style, change de registre, même de d'écriture, avec à la Libération, les temps modernes, mais aussi qu'est-ce que la littérature, et une manière vraiment qui est liée d'ailleurs. Excusez-moi parce que je fais des parenthèses, mais qui est lié aussi à la perception qu'il a de l'oralité, parce que là il découvre la radio, il fait des émissions de radio, et je crois que s'adresser à quelqu'un à la radio, comme il le faisait parce que c'est des adresses directes, hein, eh bien ça a changé son mode d'écriture, et que on peut repérer l'importance de la radio à ce moment-là dans sa manière d'écrire. Et donc il va se servir de la radio comme un moyen militant. Et donc, d'une certaine manière, il travaille quelque chose qui est en lui, qui est effectivement cette, alors pas forcément cette complaisance, parce qu'il n'a pas été complaisant à l'égard de la collaboration, mais une culpabilité de se sentir léger. Au fond, je crois que c'est quelque chose que j'aimerais faire valoir, c'est que Sartre est quelqu'un qui aime la légèreté, mais qu'il a chaussé des semelles de plomb à la Libération, précisément après cette période où, sans doute, n'a-t-il pas pu faire ce qu'il aurait voulu, c'est-à-dire véritablement être un résistant, et qu'il s'est obligé à être lourd, parce que, comme il l'a dit d'ailleurs dans ses carnets, dans les carnets de la Drôle de Guerre, c'est qu'il écrivait pendant qu'il était prisonnier au Stalag, il a dit voilà, au fond, il faut être fait d'argile, mais je le suis de vent. J'adore cette phrase de Sartre, parce qu'elle est tellement contraire à ce qu'on retient de lui, mais c'est un homme léger qui aimait rire, plaisanter, qui aimait la musique, qui n'était pas celui forcément qui était l'imprécateur dont on a retenu les leçons ou l'engagement peut-être parfois un petit peu caricatural.
Dans un de vos livres précédents, François Nudelman, un livre merveilleux qui s'intitule Le toucher des philosophes, vous faites un portrait de Sartre et de son amour de la musique, et c'était un sentimental. Et il aimait Chopin, il aimait jouer du Chopin devant ses amoureuses, mais pourtant c'est pas Chopin que vous avez choisi pour notre plus grand bonheur, c'est Tom Waits, même si on aime beaucoup Chopin. It's dreamy weather, we're on, you waved your crooked wand along an icy pond with the frozen moon, a murder of silhouette crows I saw, and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my dream. Maybe all I can think of is Alice. Arithmetic, arithmetic, turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat?
strings that hold me here are tangled around the pier. And so a secret kiss brings madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there. Then I must be insane to go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the eyes of Alice. Secret kiss brings madness with bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift and I'm lost over there. And I must be insane go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the eyes of Alice. There's only
il n'y a rien de plus inutile qu'un organe. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organe, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes et rendu à sa véritable et immortelle liberté. Alors, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des bals musettes, et cet envers sera son véritable endroit.
Nous venons d'entendre un court extrait d'une conférence radiophonique qu'Antonin Artaud avait faite en 1947. Cette conférence radiophonique est restée dans l'histoire de la pensée sous le titre « En finir avec le jugement de Dieu ». On vient d'entendre les cris, les vociférations, les glossolalies d'Antonin Artaud. On a l'impression qu'il est question de la souffrance de la pensée. Mais certaines personnes qui ont laissé des témoignages sur cette conférence et qui ont eu la chance d'y assister, c'était je crois au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris, on dit qu'au contraire, c'était la jouissance extrême de la pensée. Que se passe-t-il dans cet enregistrement qui, à chaque fois qu'on l'entend, nous met des frissons, nous provoque des frissons?
Oui, nous saisit. Oui. Là encore, c'est intéressant que ce soit une expérience radiophonique qui montre bien que les médias, enfin toute la modernité technique a aussi une grande influence sur les modes d'expression, mais sur les modes de pensée. Ça, on ne l'étudie pas assez, je trouve, en France, ce qui est étudié à travers ce qu'on appelle les sound studies aux États-Unis, c'est-à-dire vraiment l'influence, oui, c'est-à-dire que les moyens techniques ne sont pas simplement des instruments. C'est toute une mentalité qui change, qui évolue à partir d'une expérience du magnétophone, de s'entendre, de la radio. Et alors là, on a une expérience radiophonique très forte, avec un mélange, je trouve, de mélange d'improvisation et de préparation, parce que c'est quand même très préparé, avec Roger Blin, avec Maria Cazares, etc. Il y a des bruits qui sont organisés, des sons, et alors évidemment il y a cette intonation tout à fait extraordinaire et qui a qui a influencé énormément de provoqué en tout cas énormément de philosophes, que ce soit Deleuze, que ce soit Derrida, et qui ont été très marqués par cette profération, et qui pour le coup là nous rappelle que penser c'est d'abord mettre en risque, mettre son corps à l'œuvre. Hein. Ça, continuellement, il l'a affirmé avec le théâtre, mais aussi avec ses performances incroyables, où, oui, penser, c'est, il y a une mythologie, bien sûr, d'Artaud, mais c'est quand même mettre à l'épreuve des ondes, des fantômes, des spectres sonores qui sont là, jetés, pour composer finalement une œuvre tout à fait inédite, inouïe au sens propre.
Finalement, on nous apprend bien souvent, soit en terminale de philo, soit sur les bancs de l'université, que faire de la philosophie et penser, c'est organiser ce qui se passe dans la tête. Mais à vous lire et à décrypter votre manière de faire de la philosophie et de comprendre les philosophes, peut-être comprendre la philosophie, c'est comprendre les cris de la pensée. Oui. La pensée peut crier.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un mot que Deleuze emploie. Et il dit, par exemple, quand il lit l'éthique de Spinoza, il entend des cris. Hein. Donc, il faut enlever les bouchons qu'on a dans les oreilles, et puis peut-être se mettre à l'écoute de ces pistes sonores, et puis effectivement se dégager un petit peu de la pesanteur de la manière qu'ont les concepts ou les argumentations de nous impressionner et finalement de nous faire oublier que ce qui est en jeu, c'est une prise de risque, c'est une manière de se mettre en scène dans la construction d'une abstraction. Mais derrière les abstractions, ou dans les abstractions même, il y a tous ces affects, cette sensibilité et ces sonorités particulièrement.
Dans l'histoire de la philosophie du XXe siècle, il y a eu un homme qui a beaucoup utilisé la radio et qui en a fait son véhicule poétique et politique ainsi que philosophique. Vous l'évoquez d'ailleurs dans votre dernier ouvrage, François Nudelmann, c'est Gaston Bachelard. Et vous dites qu'à chaque fois qu'on entend Gaston Bachelard, on a l'impression de l'entendre penser. Donc l'homme qui faisait l'éloge de l'air, de l'eau, du feu, du rêve, nous allons l'écouter sur le thème « Rêverie et radio », archive INA, 19 mars 1949.
Nous allons d'abord prendre comme thème un peu généralisé cette idée que j'exprime ainsi. La radio est vraiment la réalisation intégrale, la réalisation quotidienne de la psyché humaine. Ce n'est pas purement et simplement un problème de communication, ce n'est pas simplement un problème d'information, mais d'une manière quotidienne, chaque jour, se plaçant devant des nécessités, non seulement d'information, mais de valeurs humaines, la radio est chargée de vous présenter ce que c'est que toute la psyché humaine. Et je crois que, au seuil de cette conférence, il serait peut-être bon que nous créions un mot nouveau. S'il n'y a pas de mot nouveau, il n'y a pas d'acquis pour une conférence. Vous savez que... Alors, je vais prendre le problème tout à fait cosmique et vous montrer, par conséquent, toute la planète est en train de parler, vous le savez bien. Mais il va falloir mettre un concept. Eh bien, le concept est le suivant. Je vais le classer au milieu de concepts très métaphysiques. Les métaphysiciens, les bergsoniens, ont parlé d'une biosphère, c'est-à-dire par exemple d'une petite couche vivante, où il y avait des forêts, où il y avait des animaux, où il y avait des hommes même. Alors ça, c'est la biosphère. Et puis, les idéalistes, il y en a partout, ont parlé de la noosphère, par conséquent d'une sphère de pensée. On vous a parlé de la stratosphère, on vous a parlé de la ionosphère, les principes physique de la radio, heureusement, bénéficie d'une couche ionisée. Eh bien, quel est le mot qui convient pour cette parole mondiale, pour cette parole cosmique? Eh bien, c'est la logosphère. nous parlons tous dans la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure, des citoyens de la logosphère.
Alors, c'est quoi les citoyens de la logosphère? Elle existe encore, cette logosphère, selon vous, François Nudelman?
Disons qu'il faudrait revenir sur le terme de logos, parce que ce terme-là, effectivement, nous fait un peu oublier qu'il y a des voix qui échappent à l'ordre même du discours, de l'ordre du savoir, de la vérité, de la science, tout ce que signifie le mot logos. Et donc, il faut déborder la logosphère par tout ce qui fait qu'il y a du sonore, que nous sommes des êtres sonores. Ce qui me frappe aussi, c'est vraiment c'est très incarné, son accent. Hein. C'est quoi? C'est un accent, ouais, un accent bourguignon?
Oui, mais vous dites aussi dans votre livre, et vous avez raison de le souligner, qu'on vit dans un monde de communicationnel, oui, et non plus de langage, oui, d'où les accents aussi sont de plus en plus effacés et,
oui, 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 oui,
et stigmatisés.
Oui. Par exemple, ce qui est très intéressant, et je pense qu'il faut travailler là-dessus, c'est par exemple dans l'intelligence artificielle, les voix synthétiques, les voix Alexa, etc. Enfin bref, les assistants vocaux, comme on dit, c'est tout à fait passionnant.
Et on les subit tous.
On les subit, mais en même temps, on peut reprendre
la main.
Vous
choisissez l'homme ou la femme pour votre GPS, vous?
La femme.
Ah, comme par hasard, moi je choisis l'homme.
Bon, bah, c'est bien, on est complémentaires. en tout cas, on peut choisir beaucoup plus que... Parce que ça, homme ou femme, c'est assez simple. Mais on peut choisir, vous avez remarqué, on peut choisir la voix d'Albert, d'Alex, je ne sais pas laquelle vous choisissez.
Albert,
oui. Mais enfin, bref, il y a des timbres très très différents. Donc, c'est intéressant aussi de voir.
Je suis pas assez douée dans l'utilisation des machines pour pouvoir aller jusqu'à ce degré de sophistication.
Mais
si vous saviez comme je suis nulle.
Mais par exemple, quand vous lisez un texte sur Internet, ou vous prenez sur Kindle, faites-le lire par un assistant vocal et vous choisissez, mais vraiment la vitesse, vous choisissez le timbre. Bon, je pense que ces expériences-là sont intéressantes parce qu'elles modifient notre idée de la voix. Aujourd'hui, la question de la voix, elle est très intéressante avec, par exemple, la modification de la voix, les voix trans, les voix qui vont dépasser justement la question du genre. Parce que là, vous me dites, bon, homme ou femme, mais au fond, maintenant, on a des voix dont on ne peut pas repérer le genre. Et c'est intéressant tout ce travail qu'on trouve aussi à l'opéra, bien sûr, mais sur cette démystification de la voix, parce que la voix, c'est vraiment le grand concept, c'est tout d'un coup la personnalisation, le timbre, etc. Alors qu'au fond, la voix, c'est un son, c'est un son comme un autre.
Alors, il paraît que certains, qui sont des génies, peuvent avoir plusieurs voix. Vous citez notamment Barack Obama.
Ah oui, oui, absolument. Je me fonde là-dessus sur le texte d'une écrivaine que j'aime bien, qui est Zadie Smith, et qui a prononcé une conférence sur les many-voiced people. C'est many-voiced, c'est-à-dire le fait qu'on peut avoir plusieurs voix, on peut imiter plusieurs voix. Alors elle sait de quoi elle parle parce qu'elle vient d'un milieu où justement on la reconnaissait comme en Angleterre, on vous juge d'après vos accents, etc. Et puis elle a appris un peu l'accent de Cambridge. Bon. Et elle a en fait effacé son accent d'origine et ses mots d'origine. Etc. Et alors elle est un peu fascinée par Barack Obama qui était capable d'imiter, de prendre la voix et du coup de s'adresser aux petits paysans, aux rednecks, du sud ou à tel autre. Et alors au point peut-être d'oublier sa propre voix, mais voilà, est-ce que c'est pas encore une petite mythologie que se dire il y a la vraie voix? Et puis il faut faire attention à pas non plus se normaliser et adopter la voix que les autres ont envie d'entendre, surtout pas. Mais en tout cas, la possibilité de prendre plusieurs voix, d'être perméable aussi aux voix des autres et de prendre leur ton, c'est une manière finalement d'expérimenter plusieurs soi-même. C'est-à-dire, parce qu'au fond, quand on parle, on est là, on se parle tous les deux, on est quand même sensible à la voix de l'autre. Et donc, sans doute inconsciemment, il y a des petites adaptations. Alors, parfois, on peut détonner, mais au fond, la voix, c'est quand même toujours dans un régime de communication, une relation entre l'un et l'autre. Et la possibilité, justement, de changer un peu de voix, c'est une des magies ou c'est une des merveilles, une prise de risque aussi de la multiplicité du soi dans la rencontre avec d'autres voix.
il n'y a pas que la voix, il y a les bruits du monde.
Oui.
Et les bruits du monde sont de moins en moins audibles. Mmh. On ne peut plus entendre le bruit des abeilles. Mmh. On peut de moins en moins entendre les bruits des animaux de la forêt. Mmh. On peut de moins en moins entendre le bruit des feuillages dans la forêt parce que les arbres sont de plus en plus coupés. Mmh. Écoutez, écoutez, Lilian Alloum est en train de nous mettre dans nos oreilles, justement, et dans celles des auditrices et des auditeurs, ce qu'on appelle un nouvel art absolument magnifique et remarquable que personnellement j'avais découvert il y a quelques années grâce à la Fondation Cartier pour l'art contemporain avec ce qu'on appelle des paysages sonores. Un concepteur de paysages sonores, il s'appelle Bernie Krause. D'ailleurs, il vient du rock. Il avait travaillé d'abord avec les Rolling Stones et puis petit à petit, s'apercevant du désastre écologique du monde, il est allé faire des photographies sonores dans différents pays du monde pour voir à quel point ça s'abaissait, les bruits du monde. Et vous plaidez pour une écologie sonore, François Noudelman, aujourd'hui.
Oui, c'est essentiel et cette exposition était remarquable. Bernie Krause s'inspire de Murray Schafer, qui est celui qui a inventé la notion de paysage sonore, qui est très discutée aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'écologie sonore est devenue un sujet très important. Vous venez de le signaler parce que l'écologie, c'est pas simplement la survie des espèces, mais c'est aussi le fait d'entendre ce qu'elles émettent. Et la disparition que signalait dans ces audiogrammes Bernie Krause est assez alarmante. Le fait que tout d'un coup, oui, la richesse du monde, elle s'efface au profit de quelques sons qui finalement envahissent nos oreilles au détriment de toute cette richesse, oui, du bruit des feuilles, du bruit des abeilles. Et donc, je crois que cette notion d'écologie sonore, elle est très riche et elle peut s'appliquer aussi à la lecture. C'est-à-dire que les textes aussi, ils ont leur bruit et il faut être sensible à particulièrement à la littérature, lorsque elle nous permet justement de mobiliser ces sonorités à la fois extérieures mais aussi internes, parce que encore une fois, je le disais en commençant, ces sonorités, elles sont en nous, elles nous constituent, nous sommes des êtres sonores. Il y a des tas de sédimentations de sons en nous. Nous avons des oreilles particulières qui ne sont pas celles des siècles précédents. Donc cette écologie sonore, elle doit nous amener, être à une attention. C'est ça, au fond, il faut plaider, je crois, aussi pour une écologie de l'attention et de l'attention au bruit du monde, parce que c'est l'attention à tous les êtres qui le composent.
Dernière question, François Noudelman. Vous nous dites, dans le dernier chapitre de ce nouveau livre, que nous avons trois oreilles, vous êtes en face de moi. Je n'en vois que deux.
Elle est invisible, mais je suis sûr que vous en avez une aussi. Je ne sais pas où elle est, mais bon, nous en avons tous une, c'est certain. Bon, est-ce que nous la faisons toujours fonctionner? Mais en tout cas, c'est une suggestion de ne pas en rester simplement à ce que nous entendons, mais d'être à l'écoute et d'être à l'écoute de ce qui est derrière le sens, derrière ou dessous ou au-dessus, mais des tas de petites choses qui font du bruit et qui sont très riches. Donc ça, c'est ça au fond, mettre en œuvre la troisième oreille.
Penser fait-il forcément du bruit ?
Toujours. Ça fait du boucan, ça peut murmurer tout simplement, mais voilà, il faut ouvrir les oreilles.
Ben merci beaucoup François Noudelman.
Merci Lorna.
Votre nouvel ouvrage s'intitule « Penser avec les oreilles ». Il est publié dans la collection « Voix libre » au pluriel, parce que « je » est un autre et plusieurs autres, aux éditions Max Milo. Et puis, évidemment, comme chaque soir, on va se quitter en musique. Écoutez.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je
déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles. Mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puissants lits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Dans l'univers y'a des milliards de vies, sur terre 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
C'était Nekfeu avec Vanessa Paradis. Merci à Stéphane Beaujac qui était à la technique ce soir, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Élodie Royer, Adrien Nazelli et Louise Douillet pour la préparation de cette émission, et à Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Après le prochain journal d'information, pour bien commencer la soirée du lundi, je vous conseille d'écouter Mishka Assayas pour son Very, Very Good Trip.